Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est préenregistrée ce soir dans le superbe Studio 2, mais j'ai réussi à amener avec moi Claudia, donc je suis toujours aussi bien accompagné pour enregistrer ces émissions. Et on peut se réjouir que notre radio ait réussi, grâce à vous, amis auditeurs, à financer Studio 2 qui permet beaucoup plus de facilité, de souplesse pour les patrons d'émissions. Et j'espère que cela annonce bien d'autres développements, n'est-ce pas, Claudia ? J'ai le plaisir et l'honneur dans cette première partie d'émission de recevoir Laurence Trochu. Laurence est députée française au Parlement européen dans le groupe ECR. Donc, sans rien cacher à nos auditeurs, j'ai le plaisir avec elle de travailler avec elle, sinon au quotidien, au moins toutes les semaines. Bonsoir Laurence.
Bonsoir, bonsoir Charles.
Vous êtes l'auteur de « Maman, j'ai vu Jésus » aux éditions Via Romana, qui raconte une expérience douloureuse et en même temps pleine d'espérance qui est arrivée à votre famille, à votre fils Stanislas à l'âge de 11 ans, renversé par une voiture et qui est sorti difficilement, mais qui est sorti tout de même d'un coma profond et qui l'a quasiment conduit à rejoindre le père. Nous allons en parler dans cette émission. J'allais dire, Laurence, je n'étais pas le public le plus approprié initialement pour cet ouvrage. Il y a eu plusieurs témoignages de femmes ou d'hommes catholiques qui ont eu à subir des drames dans leur vie et qui partent de ce témoignage pour nous montrer à quel point le Christ les embrasse et les accompagne à ce moment-là. Eh bien, patatras, j'ai été très touché par votre ouvrage. Donc, vous voyez, même les plus rétifs peuvent être attentifs. J'ai trouvé que c'était plein de sincérité et que toutes les partages spirituels étaient très justes. Ils n'étaient pas surjoués. Donc, toutes mes félicitations, Laurence, pour commencer.
Merci.
Et pour les auditeurs qui seraient comme moi, a priori, peu friand ce genre de littérature. Laissez-vous tenter à la fois par le témoignage de Laurence et puis cet ouvrage. Il n'en reste pas moins qu'il y a quelque chose de très intime dans cette expérience pour une mère, pour une femme en général. Qu'est-ce qui, Laurence Trochu, vous a convaincu de passer à l'écriture et donc à une forme de publicité de ce qui est arrivé à votre famille ?
Merci de votre invitation déjà, Charles, effectivement autour de ce livre que j'ai publié il y a quelques semaines, dont le titre est éloquent, évidemment, « Maman, j'ai vu Jésus ». Alors pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que j'ai jugé que je n'avais pas le droit de me taire. Nous avons vécu effectivement une épreuve terrible et même terrifiante, parce que je pense que tout parent tient à son enfant comme à la prunelle de ses yeux, donc voilà, c'est sans doute ce que les parents ont de plus dur à vivre quand ils perdent un enfant ou quand ils risquent de le perdre. Et pour autant, je me devais de témoigner aussi de ce que nous avons vécu, puisqu'il y a eu une fin plus heureuse que celle à laquelle nous étions censés nous attendre. Et puis aussi, vous voyez, j'ai pris le temps, parce que cet accident, maintenant, ça fait 9 ans. Je n'ai pas voulu écrire ce livre pour me consoler, je n'ai pas voulu l'écrire pour me câliner, vous voyez, me soigner d'une douleur qui était insurmontable. J'ai au contraire pris le temps de mettre à distance en fait cette histoire pour pouvoir faire cet exercice de l'écriture, retourner dans le souvenir, alors même que j'étais en mesure, avec le temps qui avait passé, j'étais en mesure de dissocier le sentiment douloureux, les sensations même douloureuses de cet épisode, et d'y revenir de manière apaisée. Et ça, effectivement, il fallait du temps. J'ai senti quand j'étais prête à le faire, voilà, parce qu'il fallait remonter le fil de l'histoire. Et j'ai toujours jugé que je devais le faire parce que ce livre, il est construit sur un fil WhatsApp qui avait été suggéré par un ami nous voyant débordés et incapables de répondre à toutes les sollicitations, tous les messages qui nous étaient envoyés. Et donc, on avait aussi cette trace écrite, fidèle, quotidienne, en tout cas dans les premiers mois, qui permettait en fait de se raccrocher à des faits objectifs que le temps n'avait pas altéré dans le souvenir.
Il y a quelque chose, j'imagine, de très particulier dans cette forme d'écriture. Vous nous avez parlé de cette capacité de distance, du temps qu'il a fallu consacrer à enfin, digérer n'est peut-être pas le verbe le plus élégant, mais disons-le tout de même comme cela. Finalement, réussir à le porter par écrit, est-ce que ça a été difficile pour vous? Est-ce que la maïeutique a été complexe? Ou est-ce que finalement, vous aviez suffisamment ruminé cette expérience pour réussir à la transcrire par écrit assez spontanément?
Je pense qu'il fallait consentir d'abord à ce que une porte s'était fermée malgré tout. J'ai le souvenir très très précis. Un jour, nous sommes retournés avec mon fils à l'hôpital dans lequel il avait été pris en charge en réanimation parce qu'il voulait montrer aux médecins ce qu'il était devenu au-delà des pronostics que ces derniers avaient posés et qui à l'époque étaient quand même vraiment très sombres hein, puisqu'on nous avait dit. Votre fils, s'il sort du coma, ce sera pour atteindre un état végétatif, simplement capable de respirer seul, et il ne retrouvera jamais la conscience. Donc, il voulait vraiment montrer aux médecins qu'il avait déjoué ce pronostic, les remercier aussi, bien sûr. Et à la fin de l'entretien, le médecin lui a montré une chambre de réanimation qui n'était pas exactement la sienne, mais qui y ressemblait. Et il lui a dit, maintenant, tu vas fermer la porte. Tu vas fermer la porte parce que cet épisode-là de ta vie est derrière toi. Aujourd'hui, ta vie n'est plus la même, évidemment. Et moi, j'avais aussi besoin de fermer la porte avec lui. Donc, il y a ce consentement, cette acceptation à ce qu'une vie nouvelle s'est ouverte ensuite, une vie qui est marquée par le handicap, puisque Stanislas a gardé des traces, hein. Il a été miraculeusement guéri. Bien au-delà, encore une fois, de ce qu'on nous avait dit, mais le handicap est cette marque finalement indélébile que quelque chose s'est passé quand il avait 11 ans. Donc, pour moi, il s'agissait aussi ensuite de consentir à mettre au monde cet enfant une deuxième fois, un enfant qui ne pouvait pas être comparé à celui qu'il était auparavant et qui aura une vie, bah, voilà, qu'il tracera avec aussi les cadeaux qu'il a reçus du ciel.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Laurence Trochu qui publie Maman, j'ai vu Jésus aux éditions Via Romana. Nous avons donc déjà cité le prénom de Stanislas, son âge au moment des événements, il a 11 ans. Que peut-on dire, ou que pouvez-vous nous dire de l'accident qui s'est produit, je crois, alors qu'il allait à l'école, si j'ai bien compris, ou
Non, non,
le.
c'était en fin de journée. Il a traversé la route et il s'est fait faucher par une voiture qui roulait au-delà de la limite autorisée. Hein. Il était plus proche des 70 que des 50. Et à cette vitesse-là, les chances de survie sont nulles. Quand le médecin du SAMU, parce qu'il avait été réanimé sur place, enfin, le processus avait été mis en place directement, nous a dit, voilà, coma Glasgow 3, donc sur l'échelle de la conscience, c'est très bas. Hein. Nous qui sommes en pleine santé, nous sommes Glasgow 10, atteinte visiblement des fonctions vitales. Et puis, voilà, ça nous a été confirmé ensuite, c'était l'atteinte du tronc cérébral, donc c'est le tronc qui commande justement toutes les fonctions vitales, et puis un électroencéphalogramme pas nul, mais vraiment très très faible, et c'était ce dernier critère, dans ce dernier critère qui montrait quand même qu'il y avait une petite activité électrique du cerveau, que se nichait bah, l'espérance que finalement il ne tombe pas en mort cérébrale. Et donc bah, voilà, on a vécu au rythme de tous les appareils qui entourent un patient et qui le mesurent dans tous les sens. Voilà, et avec évidemment les petites espérances, les petits espoirs que peuvent susciter des choses qu'on ne sait pas interpréter. Par exemple, moi, quand Stanislas me serrait la main, je pensais que c'était volontaire, alors qu'en fait, ce n'était que du réflexe. Et je découvrais finalement, les jours passant, je découvrais ce que signifiait vraiment être dans le coma. On est loin, vous savez, des films dans lesquels c'est un peu nuit et puis jour, la personne se réveille et puis la vie reprend comme avant. On a vécu étape par étape une renaissance de notre fils, mais qui ne s'est absolument pas passée comme on aurait pu l'imaginer.
Cette expérience, elle est celle d'une collision que subit Stanislas, mais c'est aussi quelque chose qui percute toute la vie familiale. Quand on est une mère et qu'on a l'impression que son enfant peut partir d'une minute à l'autre, hein, en fonction de l'évolution de sa situation. À quoi peut-on se raccrocher finalement?
Bah déjà, on s'appuie sur la force du lien conjugal. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui a joué ce rôle à fond, parce que je pense que voilà, nous avions cinq autres enfants. Enfin, nous avons cinq autres enfants. C'est vrai que j'étais complètement happée par celui qui était entre la vie et la mort. Et mon mari a eu cette sagesse de nous rappeler que nous en avions cinq autres bien vivants qu'il ne fallait pas délaisser, parce que évidemment, c'est toute une fratrie qui est meurtri aussi par l'accident lui-même, par la peur de la perte d'un frère, et puis par l'absence des parents qui sont mobilisés entièrement pour celui qui va mal. Et on a eu aussi la chance d'être très fortement soutenus par nos propres parents, et puis par tout un réseau familial et amical qui a pris soin aussi bien de nos corps que de nos cœurs. De nos corps, parce que voilà, je tiens absolument à saluer toutes ces personnes que je ne connaissais pas toutes d'ailleurs, qui prenaient soin de nous au point de déposer de manière très organisée tous les 2 soirs des paniers repas, parce que moi je passais mes journées à l'hôpital, donc évidemment j'avais pas beaucoup de temps pour la logistique. Et puis toute cette chaîne de prières qui s'est mise en place à travers le monde entier, et ça nous a complètement dépassés. J'ai évoqué tout à l'heure le fil WhatsApp qui avait été initié par un ami. J'ai su après que ce fil WhatsApp était transféré, converti en mail, même pour les personnes plus âgées qui n'étaient pas sur WhatsApp. Et ça s'est répandu dans le monde entier. Il y a un chapitre qui est consacré aux chrétiens d'Orient, et je pense, Charles, que forcément ça trouve un écho chez vous. Mais on était à ce moment-là, voilà, on était focus sur, souvenez-vous, sur Daesh et le ravage notamment en Irak. Et quand j'ai découvert que l'archevêque de Bagdad célébrait la messe pour mon enfant et qu'il y avait toute une communauté à Bagdad qui priait pour lui, je me sentais bien indigne, parce que je me disais, malgré notre malheur, il a la chance d'être soigné dans un très bon hôpital, alors même que tous ses enfants sont sous les bombes, sont sous l'esclavage des méthodes islamiques, que les familles sont disséminées, et de voir cette communion, en fait, ce fait que les prières n'étaient pas en concurrence les unes avec les autres dans le cœur de Dieu, mais que, il y avait de la place pour tous dans ce cœur miséricordieux. J'ai trouvé que c'était absolument fabuleux, et ça m'a ouvert moi aussi à cette perspective d'une prière qui dépassait ma seule souffrance, parce qu'à un moment donné, ben voilà, on vit au minimum soi-même, hein, avec une respiration et un souffle très court, que le livre retrace d'ailleurs dans mon propre travail d'écriture. Et puis on se rend compte que finalement, ce cœur, il faut le dilater, parce que toute personne qui est confrontée à une douleur comme celle-là se pose forcément la question: pourquoi moi? Pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Voyez? Et plutôt que de sombrer dans une introspection, ben j'ai vraiment ressenti cet appel à ouvrir mon cœur au-delà de ma propre souffrance.
D'autant plus que votre conscience vous parle également à ce moment-là. Laurence Trochu, vous écrivez ainsi, d'un soir où vous endormez, on l'imagine, après une journée harassante auprès de Stanislas. Vous dites: je m'endors avec cette question et mon corps se réveille avec une boule d'angoisse blottie au plus profond de moi, avant même que ma conscience ne me rappelle l'origine. Ce matin-là surgit une certitude, comme une évidence implacable, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. De l'angoisse à la volonté de se dévouer à la gloire de Dieu et le salut du monde, vous conviendrez, Laurence Trochu, qu'il y a une petite étape qui mérite votre explication.
Oui, d'abord, cette angoisse qui ne nous quitte pas, et je pense que chacun de nous a pu l'éprouver à différents moments de sa vie, mais vous savez, vous réveillez, vous avez cette boule voilà, qui fait que vous n'êtes pas dans un état normal, et vous ne savez même plus pourquoi c'est, et puis tout à coup, la conscience vous rappelle l'événement auquel c'est rattaché. Et je me revois encore, effectivement, je faisais mon lit, parce que je tenais de manière parfois mécanique, hein, ma journée, elle était faite de plein de petites choses qui me raccrochaient à la réalité et à la vie, et qui avaient tout son sens, parce que, encore une fois, on avait d'autres enfants à prendre en charge. Donc je tenais à ce que les choses soient bien faites, et je me revois faisant mon lit, méthodiquement et puis recevoir cette inspiration de l'Esprit Saint, certainement, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ce que je n'ai pas comprise sur le coup, mais qui répondait à cette question qui m'habitait la veille en m'endormant, pourquoi cela? Et pour la gloire de Dieu, je pouvais assez facilement le saisir, c'est-à-dire que l'état de Stanislas était tel que s'il s'en sortait, il y avait forcément une intervention miraculeuse, parce qu'il était en trop mauvais état pour que la médecine puisse faire quoi que ce soit. Et je me disais, bah, ce sera de fait une manifestation de la gloire de Dieu. Les miracles ne se produisent pas que dans la Bible. Les miracles, c'est encore aujourd'hui. Donc peut-être nous sera-t-il donné de voir cela. J'avais plus de mal à percevoir ce que signifiait le salut du monde. Et puis j'avais même une sorte de gêne à imaginer. Je me disais, mais voilà, est-ce que c'est pas un peu prétentieux de penser cela? Et en fait, j'ai découvert après coup toutes les merveilles finalement que le Seigneur avait faites à travers cet accident, notamment par des conversions, le baptême de la fille d'amis à qui le livre d'ailleurs est dédié, des amis qui voilà, se sont fait confirmer à l'âge adulte, se sont mariés à l'église alors qu'ils ne l'étaient pas, etc. Et puis toutes ces grâces qui ne se voyaient pas et que Stanislas m'a rappelé aussi dans sa propre acceptation quant à lui de l'état dans lequel il s'est réveillé, puisque finalement il était paralysé. Presque aveugle, mutique, et qu'il a fallu tout réapprendre. Il s'est réveillé dans un corps de 12 ans, parce qu'entre-temps, il avait eu son anniversaire, il avait fêté son anniversaire, mais un corps de 12 ans qui n'avait pas plus d'autonomie que celui d'un bébé. Et de voir que il était, comment dire, joyeux de cet état, ou joyeux en dépit de cet état. Évidemment, bah ça nous a bouleversés aussi parce qu'il aurait très bien pu avoir un sentiment de révolte, ne serait-ce qu'envers celui qui était l'auteur de l'accident. Même chose pour nous. Et mon mari a eu cette phrase d'ailleurs extraordinaire au moment de l'accident, quand cette personne s'est avancée complètement hébétée devant nous et que nous avons compris qu'il était le conducteur. Mon mari lui a dit de manière absolument inattendue, je vous pardonne. Et ça a été la seule phrase, la seule communication que nous avons eue avec ce monsieur. Mais à l'évidence, c'est quelque chose qui nous dépassait. Donc toutes ces grâces qui ne se voient pas, qui ne sont pas aussi spectaculaires que la récupération physique, mais qui se passent dans le cœur de chacun de nous.
Stanislas s'est réveillé mutique mais espiègle. J'ai trouvé très belle l'anecdote que vous expliquez sur la manière dont votre mari a réussi, au moment où je crois le fait que Stanislas avait repris conscience devenait perceptible, il a réussi à entrer en communication avec lui par un claquement de doigts. J'ai trouvé cette anecdote très belle parce qu'elle dépasse évidemment sa seule matérialité. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, Laurence Trochu?
Oui, c'était le jour de Saint-Joseph, 19 mars. J'étais partie déjeuner et en revenant dans la chambre, mon mari claque des doigts. Vous savez, c'est un geste que les médecins font généralement devant les pupilles pour voir si ça, il y a une réaction en fait aux stimuli extérieurs. Et puis jusqu'à présent, il ne se passait rien. Et alors, de fait, les pupilles de Stanislas ne bougeaient pas, mais on l'a entendu claquer des doigts une fois. Quand mon mari claquait deux fois, il claquait deux fois, et il y avait cette petite communication qui commençait à se mettre en place et qui nous laissait à penser qu'en fait, il répondait à une stimulation qu'on lui lançait. Et quand les médecins, évidemment alertés par nos cris de joie, sont venus à leur tour autour du lit, ben Stanislas n'a rien fait. Et donc, je me disais quand même, il exagère parce que nous, on était évidemment accompagnés par une psychologue de l'hôpital et je me suis dit, en fait, ils vont s'inquiéter pour nous, pour notre santé mentale.
Oui, l'internement, l'internement guettait.
Voilà, et un interne a eu la bonne idée de se cacher dans la chambre, de faire comme s'il n'était pas là, pour assister de fait à ce qui commençait à être un échange. Et il a eu cette phrase j'hallucine, voilà, qui de fait est restée comme titre d'un des chapitres qui rapporte cet événement à travers lequel on a compris que finalement, il y avait une présence minimaliste de notre fils, mais que, on pouvait dire qu'il n'était pas complètement étranger à ce qui se passait autour de lui.
Il y a un fil conducteur en plus des nombreuses citations des écritures ou de la vie spirituelle qui revient régulièrement dans le livre. C'est celle du petit prince. Alors, est-ce que Stanislas vous évoque vraiment cette figure du petit prince ou est-ce que vous y avez pensé pendant l'écriture de l'ouvrage? D'où vous est venu ce fil qui revient chapitre après chapitre?
Alors, c'est vraiment en rentrant dans la chambre la première fois que je l'ai vu, finalement, ou que je l'ai revu après l'accident. Il avait été opéré d'un hématome extradural, donc il avait la tête enturbanée, mais il y avait ses cheveux blonds un peu fous qui dépassaient de ce turban, et puis qui, de fait, continuaient à pousser aussi, parce que pendant le coma, les cheveux poussent, les ongles aussi, et donc plus on avançait dans le temps, et plus ses cheveux en bataille me rappelaient ceux du petit prince, en tout cas dans l'image qu'on a sur toutes les belles éditions. Et je savais déjà que Le Petit Prince n'était pas un livre pour enfants, mais c'est vrai que j'ai vécu tous ces mois d'hôpital en étant accompagnée par des auteurs. Donc il y avait Le Petit Prince de Saint-Exupéry, il y avait François Cheng aussi, à travers deux de ses ouvrages, Les Méditations sur la mort, qui n'ont jamais été aussi vives pour moi qu'à ce moment-là, De l'âme, parce que de fait se posait la question de qu'est-ce que c'est qu'un être humain quand il est privé de toutes ses facultés et qu'on ne voit plus rien d'autre qu'un corps inerte et que malgré tout la vie est là. Donc j'ai eu des compagnons de route, vous voyez, j'ai eu bien sûr Jésus à travers tous les textes, puisque nous étions en carême, donc tous les textes du carême, puis de la semaine sainte, puis de la résurrection. Et puis j'ai eu ces auteurs qui ouvraient aussi sur le ciel, mais d'une manière beaucoup plus profane. Et j'ai cheminé en fait avec eux pendant tous ces mois.
De François Cheng, dans ses 5 méditations sur la mort, vous citez notamment ce passage: la conscience de la mort qui nous taraude est loin d'être une force négative, elle nous fait voir la vie comme un don inouï, sacré. Est-ce que vous avez, à l'occasion de ce drame, davantage perçu, ou peut-être plus finement perçu, cette vie comme don inouï et sacré?
Et je l'ai perçu, vous voyez, paradoxalement, non pas avec Stanislas, mais avec ses frères et sœurs. C'est-à-dire que dans nos vies qui vont très vite, qui sont polluées ou parasitées aussi par des moyens de communication modernes, je pense par exemple au téléphone, j'ai réalisé que finalement, il fallait que je m'interroge aussi sur la qualité de présence que je pouvais avoir auprès de ceux qui étaient bien vivants. Et c'est un défi quotidien, évidemment, mais de savourer finalement la valeur d'une vie à travers des petites choses parfois complètement insignifiantes que nos enfants peuvent nous raconter, mais qui constituent malgré tout leur journée. Et ça m'a donner ce désir finalement d'être davantage présente et aimante auprès de ceux voilà, qui eux étaient en pleine santé pour saisir, et c'est ce que dit mon mari dans l'avant-propos, pour saisir qu'en fait on n'a pas une minute à perdre pour aimer mieux, pour aimer plus à la fois ceux qui nous entourent et puis le bon Dieu, parce que finalement la vie peut s'arrêter voilà, bêtement un soir parce qu'une voiture nous renverse.
Évidemment, votre livre n'est pas un livre principalement, ou j'allais dire, ou même essentiellement politique. Il n'en est pas moins qu'il vient dans une période où la question de la vie fragile et de la fin de vie ne manque pas d'agiter les esprits. Mais il n'y a pas que cela non plus dans votre expérience. J'aimerais vous poser deux questions qui dépassent un peu le sujet de Stanislas, bien que votre expérience nous permette d'y réfléchir. Plus précisément, Laurence Trochu. La première, je crois que ça revient à deux ou trois moments du livre, vous me corrigerez si je me trompe, c'est la question de l'intérêt du corps médical pour les organes non endommagés de votre fils. J'ai eu l'impression, peut-être que je postule quelque chose qui n'est pas vrai, Laurence Trochu, que c'est des interrogations qui vous ont marqué au cours de cette période d'hospitalisation. D'abord, est-ce que j'ai vu juste et que pouvez-vous nous en dire?
Ben, on est confronté à une. D'abord, la première question à laquelle moi j'ai été confrontée, c'est celle de l'acharnement thérapeutique. Puisque quand vous avez un médecin qui vous dit Ben voilà, votre enfant vivra un an et demi parce qu'il est jeune, dans un état végétatif, il ne retrouvera jamais la conscience. En fait, quand est-ce que ça s'arrête? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on décide finalement qu'on va débrancher? Et je comprenais là qu'il y avait de grandes chances pour que ça se termine comme ça, chez nous en tout cas. Et c'est vrai qu'on avait été formés, mon mari et moi, par nos parents, par tous les groupes catholiques dans lesquels nous avions évolué en étant plus jeunes. Mais là, on était vraiment à chaud. Et on a eu ce besoin aussi d'aller voir un prêtre spécialiste de la question de la fin de vie. Et là, j'ai compris que, en fait, rentrer dans une logique d'acharnement thérapeutique, c'était aussi cela qui nourrissait les revendications d'euthanasie et qu'il y avait cet équilibre, cette zone grise, en fait, à trouver. Et c'est pour ça qu'à un moment, je dis à Stanislas, ne nous laisse pas avec une décision de ce type-là à prendre. Je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu sais que tu dois mourir, vas-y, vas-y, meurs. Et si en revanche tu sais que tu dois vivre, eh bien, donne-nous le signe que ta vie est possible. Et vous lirez dans le livre la manière dont Stanislas a répondu à un moment où en fait on n'attendait même pas de réponse puisqu'il était dans un coma très très profond. Donc ça a été la première interrogation. On va dire à connotation bioéthique. La deuxième, c'est effectivement concernant le don d'organes. Je n'avais absolument pas vu cette question. Et j'ai cette phrase dans le livre, le malheur des uns peut faire le bonheur des autres, parce que de fait, Stanislas, voilà, avait des reins, avait un cœur en bon état, avait un foie en bon état. Et je me disais, bah, finalement, voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et des médecins amis nous avaient interpellés là-dessus en disant, si toutefois Stanislas meurt, très très rapidement derrière, vous serez confronté à cette question. Et c'est vrai que les balises, les repères que nous donne l'Église, qui sont rappelés dans le catéchisme de l'Église catholique, ont été pour nous d'un grand secours aussi par rapport à cette potentielle question. Mais voyez, elle a été télescopée et finalement on ne l'a pas poursuivie. Elle a été télescopée parce que de fait, Stanislas a manifesté un signe de vie pratiquement au moment où la question se posait.
Nous entrons dans la fin de cette conversation. Laurence Trochu, je rappelle le titre de votre ouvrage, Maman, j'ai vu Jésus, aux éditions Via Romana. Et donc, à un moment, Stanislas fait le choix de vous expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu des instants qui ont suivi son accident. Pouvez-vous nous en faire le récit et pouvez-vous nous dire en quoi ce récit a transformé et continue de transformer votre vie?
Oui, parce que voilà, quand il a recommencé à parler, c'était uniquement pour faire des petites phrases sujet-verbe complément, voire pour répondre uniquement à des questions fermées par oui ou par non. Et le jour de Pentecôte 2017, vous voyez, donc on est de février à, je sais plus si c'était mai ou juin, juin je crois, Stanislas rentrait de temps en temps à la maison, l'espace d'une journée avec une maison qu'on avait aménagé avec un lit médicalisé, etc., puisque évidemment il était complètement impotent à ce moment-là. Et pendant 40 minutes, il fait le récit de ce qu'on appelle communément une expérience de mort imminente, que lui qualifie de vie imminente parce qu'il nous dit qu'il était dans la vraie vie. Voilà. Donc il a fait cette expérience de la sortie du corps, de voir ce qui se passait chez nous quand lui était dans le camion du SAMU, de rencontrer au ciel Jésus, sa grand-mère, enfin son arrière-grand-mère aussi, qui lui a présenté son arrière-grand-père qu'il n'avait jamais connu, et puis cette expérience négative, dont j'ai compris après qu'elle était assez rare, d'apercevoir l'enfer, sujet sur lequel il reste d'ailleurs très évasif, très, très marqué par la frayeur en fait que ça lui a créée. Et donc, il ne s'étend finalement, il s'étend pas beaucoup sur cette vision-là. Et il nous a posé cette question, mais voilà, les parents, il nous l'a posé après, hein, bien après. Ce que je vous ai raconté, est-ce que ça a augmenté votre foi? Est-ce que ça a changé votre foi? Et on lui a dit non, c'est pas notre foi qui a été renforcée parce que je pense qu'elle était déjà solide. En revanche, ce qui a été perçu de manière absolument incomparable, c'est le désir du ciel. C'est-à-dire que je crois qu'on ne mesure pas en fait ce qui nous attend au ciel. Et quand il le décrit, on a qu'une envie, c'est de s'en rendre digne, en fait, d'y courir pour découvrir cet amour absolument infini qui nous attend et qu'on ne peut absolument pas soupçonner ici-bas, même si nous pouvons vivre des moments merveilleux avec ceux qui nous sont proches, avec ceux que nous aimons. Mais c'est absolument incomparable par rapport à ce qui nous attend. Et vraiment, ça a renforcé ce désir du ciel qui se prépare dès aujourd'hui et encore une fois pour lequel il faut se donner entièrement.
Je vous remercie, Laurence Trochu, de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. J'encourage tous nos auditeurs à se procurer et à diffuser cet ouvrage, Maman, j'ai vu Jésus, aux éditions Via Romana. Et on souhaite évidemment une belle avancée vers la Pentecôte à toute votre famille et à Stanislas en particulier.
Merci Charles.
Nous,
Merci chers auditeurs.
Claudia nous propose une pause musicale et nous retrouvons François Bousquet qui va nous présenter son dernier ouvrage. À l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de continuer ce libre journal des débats de Radio Courtoisie. Nous entendons Laurence Trochu qui publie Maman, j'ai vu Jésus aux éditions Via Romana. Et c'est une thématique que nous abordons désormais avec François Bousquet qui est un ami. Bonjour
Oui,
François.
bonjour Charles.
François Bousquet, vous continuez votre enquête à travers la France, à travers les générations, à travers les réalités sociologiques sur le racisme anti-blanc. Je cite tout de suite le titre de votre nouvel ouvrage, Sale Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir aux superbes éditions de la Nouvelle Librairie. François, vous écrivez en avant-propos, pour le reste, il faut avoir l'estomac bien accroché. Et c'est par là que j'aimerais commencer. Est-ce que cette enquête vous transforme, vous marque? Qu'est-ce qu'elle a comme incidence sur vous?
Alors, sans démagogie, hein, sans surjouer l'empathie. Je suis sensible au sort de mes témoins. Il m'arrive de pleurer avec eux, je me répète, hein, sans surjouer une comédie de la sincérité. Je suis ému par le sort de beaucoup d'entre eux. Je pense à une de mes témoins dans ce deuxième volet, Sonia, qui ne pouvait pas faire l'acquisition du bouquin. C'est vous dire, hein, 22,90 €, je crois, plus quelques frais de port, hein, que je lui ai envoyé. Elle vient de me répondre à l'instant, là, voyez, en prenant le remerciement, oui, donc je les ai en moi, je ne veux pas les trahir, voilà. Je voudrais être à leur hauteur. Mon objectif principal, c'est être à la hauteur. Après, faire en sorte que cette cause, cette problématique du racisme anti-blanc puisse avoir droit de cité dans l'espace médiatique, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas, ça a droit de cité dans l'espace médiatique dissident, alternatif, hein, jusqu'à la bolosphère. Enfin, en gros, c'est réinfosphère et bolosphère. Au-delà, c'est nier. Donc ça, c'est une mission, bien sûr, c'est une mission politique et métapolitique que je m'assigne, hein, mais ça, c'est dans tous mes chantiers et tous mes travaux. Mais là, dans le cas des témoignages, plus de 90, hein, sur les deux volets de mon enquête, hein, c'est vraiment être à la hauteur, ne pas les trahir, porter leur voix sans la déformer. Tous les témoignages, une fois retranscrits, sont soumis à mes témoins. Il y a des témoins qui ne rebondissent pas quand je leur soumets un témoignage parce qu'ils partent dans la nature, ils sont instables. Je ne reprends pas leur témoignage, malheureusement, sinon le livre serait plus épais. Du reste, je l'ai beaucoup coupé pour que ce ne soit pas trop
vulgaire. Vous expliquez qu'ils pourraient faire au moins le double ou le triple sans difficulté.
Je pourrais continuer à faire un troisième volet, une nouvelle saison, comme dans les séries télévisées. comme sur Netflix, mais je ne sais pas si. Peut-être le Fresh, mais le Fresh, là, pour le coup, en accès libre sur Internet. Hein. J'ai créé une adresse mail dans mon premier volume hein, pour que les témoins puissent me solliciter directement. Les témoins, je les ai obtenus par mon
Oui, j'allais
réseau.
poser la question. Vous remerciez dans le premier
Mais
ouvrage beaucoup
principalement,
Damien Rieu.
Damien Rieu et Sautarel de Havre de Souche. Hein.
Là, est-ce que les témoignages sont venus différemment? Est-ce qu'ils sont venus beaucoup par cette adresse?
Alors, ils sont venus spontanément par cette adresse. Hein, mais néanmoins, quand même, et Damien Rieu et Pierre Sautarel de Havre de Souche m'ont fait l'amitié de relayer mes multiples appels à témoins. Et ça a ajouté une autre dimension que je n'avais pas négligée, hein, je n'avais surtout pas occultée. C'est les violences faites aux filles, hein, particulièrement aux femmes en général, mais aux filles en particulier, parce que la cible, c'est quand même l'univers des collégiens et des collégiennes. Et Alice Cordier, Mathilda, et plus largement le collectif Némésis, hein, a une puissance d'audience absolument phénoménale. Hein. Franchement, il y a un maillage du territoire qui est sidérant. Et j'ai pu m'ouvrir tout un continent, celui des violences faites aux filles et aux femmes. Hein. Rencontrer quantité de jeunes filles et de jeunes femmes qui sont en train de créer des collectifs Némésifs, tels dans la Drôme, tels autres en Bretagne. Hein. Donc il y a un maillage territorial que je n'avais pas vu depuis Génération Identitaire. Hein. Donc un travail qui est vraiment très remarquable. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de témoins. Les témoins ont le plus grand mal à venir jusqu'à nous, en réalité. C'est ça le problème. Hein. Parce qu'ils ont tellement intériorisé que ça n'existait pas. Que moi je les accouche, hein. C'est pas des blagues.
Oui,
hein.
C'est de la maïeutique, vous
employez
le terme
d'ailleurs. C'est de la maïeutique. Hein. Alors une fois que l'accouchement a opéré, après la parole se libère. Je recours à cette expression qui est un peu édulcorée, libération de la parole. Enfin, quand même néanmoins, il y a quelques sondages qui sont sortis très récemment. Un sondage CNews par le CSA, Institut de sondage CSA, CNews Europe JDD, qui montre que 69% de Français pensent que le racisme anti-blanc existe, avec des ordres de grandeur plus grands hein, chez les ados. C'est 78% chez les 18-24 ans. Puis surtout, il y a le sondage commandé par la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme international, hein, dont le cœur de mission n'est pas de s'intéresser au racisme anti-blanc, manifestement. Hein. Donc il y a toujours un biais dans les sondages, c'est le biais du commanditaire, le prestataire quand même répond à une demande. Hein. Enfin, néanmoins, il ressort que 39% dans ce sondage, qui est colossal, 14 000 personnes, c'est quand même colossal, 39%. De Français blancs ou perçus comme blancs, pour recourir aux euphémismes des sondeurs et des sociologues, hein, a été victime de racisme anti-blanc. C'est-à-dire, en gros, grosso modo, 20 millions de personnes. Moi, je pense que c'est le double, hein, facilement le double. Hein. Je pars du principe que dans chaque famille, on connaît quelqu'un qui a eu un accident de la route, ou deux, un cancer, ou deux, ou trois. C'est la même chose pour le racisme anti-blanc. Sauf que les gens n'en font pas l'aveu. Parce qu'ils ont tellement ces mécanismes d'intériorisation, de honte sociale, hein, d'inversion accusatoire, hein, fait que bah, ils ont le plus grand mal à faire l'aveu que d'abord c'est pour un garçon, c'est pas toujours très glorieux. Ça vaut pour moi aussi. Hein, je veux dire, c'est de faire l'aveu qu'on n'a pas été à la hauteur dans cette situation, dans cette guerre des yeux, bah, on a baissé les yeux. Pour les filles, c'est pire, hein, parce que je veux dire, si vous êtes violées, elles peuvent se doucher 100 fois, ça ne change rien à la fin. Je veux dire, la centième fois, elles sont toujours aussi sales, quoi. Elles se sentent toujours aussi sales. Hein. Donc tout ça, c'est très difficile de l'accoucher. C'est caractéristique des phénomènes d'agression où il y a une sous-déclaration. Mais là, il y a une non-déclaration parce que l'institution scolaire, policière aussi, je dis bien, j'insiste, policière, hein, pas seulement les magistrats, et judiciaires reconnaissent pas, ou vraiment à la marge, le racisme anti-blanc. Donc les victimes sont isolées, elles se replient sur elles-mêmes, elles se rétractent. Certains de mes témoins, filles, hein, me disent que ça va jusqu'aux scarifications, donc ça va vraiment très très loin. On a vu aujourd'hui tomber une affaire sidérante hein, à Angoulême d'une maman qui dit que sa fille a été esclavagée sexuellement, prostituée, violée à répétition. Elle parle des... je ne sais pas si je...
Continuez, 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 François
Boussard. Elle parle la mère de la petite poupée à Black du Champ de Mars. Hein. Moi, c'est terrible. Rien que de... Enfin, bon, bref. Hein, voilà,
Commençons peut-être par ce... Cette partie qui est sans doute la plus abjecte de l'ouvrage, c'est que vous réfléchissez beaucoup et vous travaillez beaucoup à cette stratégie de prédation raciale, ouais, ou au moins à le net arrière-plan racial qui s'était.
Ouais, et religieux aussi.
Et religieux qui s'est exprimé sur les femmes et les filles blanches, et notamment cette question de la libération de la parole à l'époque de MeToo,
ouais.
Des grandes opérations saines pour beaucoup d'entre elles de déballage, on sent que ça a beaucoup de mal à sortir, et quand on lit votre ouvrage, on se rend bien compte qu'il y a un phénomène massif
ancien.
Qui s'est produit et dont finalement l'émergence comme sujet psychologique, ouais. Comme sujet sanitaire, comme sujet culturel et social, ouais. Et in fine comme sujet politique, ne vient pas. Alors, cette espèce d'iceberg immergé. Est-ce que vous pouvez d'abord nous le décrire un petit peu? Est-ce que ça vous semble être un phénomène de masse?
Oui, alors évidemment, je peux pas le... Enfin, si, je peux le prouver sur la base des dernières enquêtes, qui sont les premières. Je suis comme vous, comme beaucoup de garçons, on a un regard contrasté sur MeToo. C'est à la fois indispensable, hein. C'est le schéma caractéristique MeToo de la libération de la parole. Hein. Il y a une parole qui est jugulée, qui est souterraine, hein, la parole féminine des violences faites aux femmes, et qui ne trouve pas d'issue. Et tout d'un coup, il y a un phénomène médiatique, hein, qui permet aux femmes, hein, de libérer la parole, hein, avec certains excès. C'est pour ça que je pointe la dimension contrastée. Certains excès. C'est la même chose, quand même, néanmoins, pour le racisme anti-blanc. Alors, c'est tout frais, hein, mais il me semble quand même que ce sondage, hein, l'ICRA, exécuté par l'IFOP, hein, recoupe, hein, un phénomène caractéristique de la libération de la parole. On est vraiment dans le schéma, dans le schéma de MeToo. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, ça, le racisme anti-blanc n'existe pas, mais comment se fait-il? Il y a 39% de gens, donc il y a 20 millions de Français, c'est colossal. Donc on commence à en parler, mais de fait, oui, on a étouffé ce phénomène, comme on a étouffé le phénomène des grooming gangs, enfin des viols de paquis en Angleterre, hein, parce que ça remet fondamentalement en cause tous les postulats du multiculturalisme, hein, qui reposent sur une assimilation implicite ou à tout le moins une intégration. Or, que nous dit le racisme anti-blanc? Que nous disent les violences faites à nos adolescents? Eh bien que l'assimilation d'un ne fonctionne pas, ça, je vais faire au cas par cas, si, bien sûr, hein, mais on peut assimiler, comme le dit René Camus, des individus, pas des peuples, pas des mœurs, hein, pas des civilisations. L'intégration, peut-être, hein, mais c'est pas tout à fait le cas. Parce que s'il y a du racisme anti-blanc, c'est que les populations que nous accueillons, en particulier les populations extra-européennes, ne nous aiment pas. Or, c'est quand même, si on accueille des migrants, c'est quand même à la fin des fins, c'est in fine, à moins que ce soit une migration de travail, donc temporaire, mais ce n'est plus le cas depuis le regroupement familial, hein, c'est quand même néanmoins pour en faire des Français.
Or, on en fait toute une réflexion sur le ressentiment, d'ailleurs.
Pourquoi on a octroyé la nationalité à des millions de gens? C'est une nationalité technique, bureaucratique, de papier. Moi, je les appelle des Français CERFA. Ils n'aiment pas la France. Alors on me dit sur quelle base je m'appuie pour dire qu'ils n'aiment pas la France. Il y a quand même quelques dates symboliques très 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 fortes. Deux matchs France-Algérie, dont un avec un envahissement de terrain. Je veux dire, c'est quand même colossal. France-Maroc, même phénomène. Hein. La Marseillaise est huée. Dès qu'un joueur français, surtout si c'est un joueur d'origine maghrébine qui a le ballon, avec le maillot tricolore sur les épaules, il est hué, sifflé. France-Tunisie, même phénomène, hein. On pourrait multiplier ça en Belgique, en Italie, en Allemagne, avec les Turcs, hein. Et en Belgique, avec le Congo, enfin la République démocratique du Congo ou d'autres. Donc ils ne nous aiment pas. Pourtant, ce sont des Français. Ce sont des Français techniques. Ce sont des Français avec des droits qu'octroie la nationalité française, dont le droit de vote, hein. Or, ils nous disent, les yeux dans les yeux, fameuse guerre des yeux, nous ne vous aimons pas. Vous êtes des Français. Donc, eux-mêmes discriminent. Hein. La première forme de racisme, ce n'est pas celle que je documente dans mon livre. Hein. C'est un racisme qui n'est pas nominal, hein, que nous avons tous rencontré, là, pour le coup. C'est-à-dire que nous sommes, en tant que Blancs, en tant que Français, en tant qu'Européens, les parangons d'une histoire qui est décriée, sur lesquels s'exerce un racisme non nominal, hein, un racisme collectif. Sur le colonialisme, sur l'esclavage, sur les croisades, que sais-je. Hein. Donc c'est cette parole que la gauche ne veut pas libérer, en trichant, en mentant, en adoptant des stratégies de triche sociale. Hein. Vraiment, ils ne peuvent pas ne pas tricher. Pour ne pas le reconnaître, parce que le reconnaître, moi je compare ça à un jeu de Mikado. Le multiculturalisme est un Mikado. Si vous retirez la baguette racisme anti-blanc, si vous retirez la baguette hein, corrélation, qui est documenté par le ministère de l'Intérieur, hein, entre la délinquance et l'immigration, en particulier l'immigration extra-européenne. Elle est documentée au niveau européen, en France assez faiblement, mais quand même néanmoins Darmanin donnait régulièrement des chiffres à Paris, à Lyon, à Marseille. Hein. Eh bien, si vous retirez les uns après les autres ce Mikado, la tour de Babel, hein, c'est la vocation de la tour de Babel. Mais nous avons recréé une tour de Babel, hein, sa vocation c'est de s'effondrer sur elle-même. Hein. Donc toutes ces raisons font qu'on ne peut pas le reconnaître. Hein. Le schéma qui prédomine en Occident, en Europe de l'Ouest hein, singulièrement, hein, parce que les États-Unis s'en sont affranchis, me semble-t-il, après Clinton, après Trump, hein, mais pas nous, Européens de l'Ouest, hein, c'est que tout repose sur une asymétrie victimaire. L'asymétrie victimaire, ça veut dire qu'il y a un double standard. Ça veut dire que le racisme ne peut s'exercer que de l'un, c'est en l'occurrence le blanc, contre les racisés. L'inverse n'est pas imaginable. Hein. Et si vous regardez bien, toute notre imaginaire contemporain est construit sur cette asymétrie. Le sacrifice des peuples historiques, hein, et ce sacrifice est indispensable, hein, je le redis, pour créer une société multiculturelle. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, une société multiculturelle. On le voit dans le cas canadien, français, belge, anglais. Ce n'est pas un jeu à somme nulle. Elle ne peut fonctionner, cette société, qu'au détriment, qu'au sacrifice du peuple majoritaire.
Ce détriment du peuple majoritaire, il a eu des serviteurs, il a eu des employés, et on en vient presque à lire votre témoignage sur le milieu scolaire, à exiger une forme de rapport sauvé de ce qui s'est produit dans les écoles françaises des années 70 à 80, puisque ce qui est... Y a plein d'éléments révoltants dans votre ouvrage, François Bousquet, mais ce qui est sans doute le plus révoltant, c'est la rémanence, la répétition dans les témoignages de « j'ai vu des jeunes filles violées, j'ai vu des jeunes filles agressées, j'ai vu des cas réguliers d'agression qui se déroulaient en milieu scolaire, les professeurs, les proviseurs savaient, et soit ils opéraient de véritables opérations de matraquage idéologique, accusant de racisme les victimes de racisme, soit ils organisaient le silence auprès de ce qui se passait. Est-ce que vous avez aussi eu cette impression-là en colligeant les témoignages? Et qu'est-ce que ça éveille en vous comme réaction?
S'ajoute le cas, parfois à la marge, d'un professeur, parfois de gauche, mais c'est vraiment marginal, qui renvoie les populations, les enfants, les élèves, les collégiens d'origine extra-européenne à un racisme qu'il reproche aux pays hôtes. Il y a aussi le cas du professeur, en particulier des professeurs femmes qui ont honte. Elles ont honte, elles ont peur surtout. Elles ont peur. Moi, j'ai une témoin fille qui me dit, on est dans le Paris 14e, en classe de 4e, professeur de français, dans la classe de 3e, pardon, professeur de français, fille, femme, voyait que des élèves extra-européens se masturbaient devant mon témoin. En classe, je veux dire, en classe. Mais elle baissait les yeux. Elle baissait les yeux de peur, une peur physique, assurément, mais aussi, je pense, une peur sociale et une peur morale. Parce qu'on a tellement c'est ce schéma qui est pervers, qui est celui de l'inversion accusatoire, c'est qu'on a toujours peur d'être renvoyé à l'accusation de racisme, qui est la religion d'un continent sans religion, l'antiracisme, c'est la religion civile d'un continent qui a renoncé à sa religion historique, en l'occurrence le christianisme. Donc on a mis en place une proto-religion que Finkielkraut appelle le racisme, le communisme du XXe siècle, mais ça ne dit pas assez la dimension religieuse, même si c'est une fausse religion, même si c'est une religion viciée, corrompue, c'est quand même néanmoins une religion. Donc on a une institution qui a, dans les largeurs, collaboré, l'institution scolaire en particulier, là encore, c'est étonnamment documenté par des sociologues de gauche. Moi, j'ai en tête un livre sur l'apartheid scolaire de trois profs publié au Seuil au début des années 2000, dans une immersion dans l'Académie de Bordeaux, où il relevait, c'est des sociologues de gauche, je veux dire, que les professeurs avaient tendance à surnoter les élèves, vous vous rendez compte, surnoter les élèves d'origine extra-européenne. Parce que les professeurs avaient associé que c'était mécanisme d'asymétrie, que c'était des victimes. Comme ce sont des victimes, on va faire une discrimination positive à leur encontre. Ils l'avaient intériorisé, ils en font l'aveu, je veux dire. Et que font les enfants blancs? Ils sentent qu'ils sont victimes d'une injustice. Alors, moi, j'essaye d'imposer, peut-être en parlera-t-on, une parabole qui est celle du coucou. Je ne sais pas si il est opportun d'en parler.
Que vous devez d'ailleurs à votre épouse, la remercier.
Merci à elle, Andrea. Et également, je l'avais occulté, mais elle fait un traitement assez différent à Florence Bergeau-Blaclair. Elle s'adopte la stratégie du coucou pour le frérisme musulman. C'est pas l'usage que j'en fais. Je trouve que l'usage que j'en fais est plus violent, peut-être plus brutal, mais enfin, il dit très cruellement le sort qu'on réserve à beaucoup de nos jeunes. Le coucou, c'est un animal, c'est un oiseau qui dépose son œuf dans le lit d'un autre oiseau, et puis après, il s'en va. Je veux dire, il s'occupe plus de le couver ni de l'élever. Donc il y a un parasite, ça s'appelle le parasitisme de couver. C'est l'œuf du coucou qui est dans un nid. Le coucou a procédé à une substitution d'œuf. Et les parents légitimes, les parents hôtes, l'oiseau en l'occurrence, l'oiseau hôte, va élever, nourrir un coucou qui est un nom d'un imposteur. Un imposteur qui a expulsé du nid tous les enfants légitimes, c'est-à-dire tous les oisillons légitimes, qui grossit à vue d'œil, parce que le coucou est un animal à nos autres moyennes tailles. Mais regardez, j'invite les auditeurs à regarder des documentaires sur le web. Vous avez des parents abusés, bien sûr, qui nourrissent un coucou de quelques mois, mais qui est déjà 5 à 6 fois plus gros que ne le sont les parents. Les témoignages que j'ai recueillis me font penser à cette stratégie du coucou, parce que il y a un dévoiement du discours public, du discours officiel, du corps enseignant, du corps encadrant, Le dévoiement, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'ils ont délibérément sacrifié une population, une jeunesse blanche, en tout cas la jeunesse des quartiers, des pavillons, celle qui n'a pas pu pratiquer le white flight, c'est-à-dire l'exil, l'exil volontaire, la fuite des Blancs. Donc qui est resté sur place pour quantité de raisons, parce qu'il n'y a pas de revenus, parce que les couples étaient divorcés, enfin que sais-je, eh bien on les a sacrifiés pour acheter la paix sociale dans les quartiers et dans les collèges. Donc ça me semble que la stratégie du coucou dit beaucoup du sort, c'est-à-dire que les enfants légitimes ont été sacrifiés par des parents dévoyés.
Mais elle va plus loin d'ailleurs, votre explication de la stratégie du coucou, puisque le coucou, s'il se rend compte que l'œuf qui a été déposé n'est pas élevé, revient agresser la nichée.
Voilà, il y a des biologistes qui ont mis à jour ce qu'ils appellent la stratégie mafieuse du coucou. Mafieuse, je vais venir parce que en deux temps sur la stratégie mafieuse. La première, c'est que si jamais l'oiseau parasité par le coucou se révolte, le coucou vient détruire le nid et détruire l'oiseau. S'il se révolte trop souvent, régulièrement, il y a des opérations de destruction du nid, des nids qui va parasiter. Ça, c'est la première dimension de la stratégie mafieuse du coucou. La seconde dimension, qui est vicieuse, et ça recoupe également beaucoup de mécanismes de gratitude perverse auxquels j'ai été confronté dans cette enquête depuis vieille de 2 à 3 ans, c'est que l'oisillon coucou libère des substances parfois répulsives qui protègent le nid, paradoxalement. Donc c'est la configuration, c'est ce que disent les biologistes, la configuration mafieuse. C'est quoi une configuration mafieuse? C'est de l'extorsion contre de la protection. Donc voilà pourquoi moi cette comparaison me semble assez riche, assez féconde et résume assez bien le sort de ces enfants blancs, de ces ados blancs qu'on a abandonnés dans des zones de non-droit. Enfin,
Et ils savent qu'ils ont été abandonnés. Je cite un de vos témoins. L'une de mes maîtresses d'école à Austricourt, j'espère que je prononce le nom de la ville correctement, était la femme du maire, un notable socialiste. Elle nous faisait la morale comme quoi il ne faut pas être raciste. Mais qui subissait le racisme? Nous. Ce qui me blessait le plus, c'était l'absence totale d'empathie. Cette question de l'empathie brise dans la construction d'une personne, etc. Il revient régulièrement dans les
thèmes. Alors là, il se trouve, c'est un garçon immense. Il me dit que c'est qu'il n'est pas né dans le coton, mais dans le charbon. C'est un petit-fils de mineur, fils d'ouvrier. Il votait socialiste. Il m'apprend une chose, c'est que dans le Nord... on votait tout à gauche, avant la question migratoire ne s'invite. Lui, c'était une famille française, pas polonaise pour autant, mais très chrétienne. Donc, il votait socialiste. Ceux qui n'étaient pas chrétiens votaient communiste. Ce qu'il me raconte est sidérant parce qu'on est en 81, 82, 83. Donc, c'est vieux de 40 ans. C'est quand même énorme. Et il me dit que dans les corons, lui, mon témoin, années 81, 82, on commence à avoir SOS racisme. Il va y avoir la marche des beurs. C'est le mitterrandisme. Il voit déjà le phénomène des moutons dans les jardinets ouvriers des corons. On voit des moutons avant l'Aïd, puis après on voit que des peaux de moutons qui pendent. D'autres témoins me disent qu'ils voient des têtes de moutons découpées. Ça, c'est dans Lyon, milieu populaire. Nous, on le voit pas. Moi, je le vois pas. Moi, je suis parisien. Alors, je suis trop jeune, certes, mais mes parents sont parisiens. Petits bourgeois, mais quand même néanmoins parisiens. Tout ça, nous, c'est un phénomène qui est inimaginable, inconcevable. Et l'institution les a déjà abandonnés. On pourrait penser que l'institution a abandonné les enfants il y a 20 ans, 30 ans. Non, les jalons sont posés à la fin des années 70. Il y a une déconstruction du récit national dans le domaine savant. Et les profs, c'est ce à quoi ils se nourrissent. Le bouquin de Paxton, La France de Vichy, c'est en 72 de mémoire. C'est vraiment le début du renversement, ce que j'appelle moi la rétro-satanisation de notre histoire. Où on passe de la légende dorée, qui était délirante, à la légende noire, qui est aussi délirante. Donc tout notre passé devient passif. Les profs d'histoire, je se l'approprie, avec un zèle invraisemblable. Et donc dès qu'ils donnent des cours, c'est pour se mortifier et se flageller, ne pas reconnaître la souffrance des enfants blancs. Pour vous dire à quel point ça va loin, c'est que alors ça, c'est déjà les années 80, je veux dire, c'est fou. Quand il y a des chapitres d'histoire qui sont abordés problématiques pour l'islam, les profs acceptent, on est en primaire, en élémentaire, acceptent que les enfants quittent la classe. Moi, les témoins me disent que dans des univers où le blanc est localement minoritaire, des Turcs, par exemple, dès qu'on aborde le chapitre du massacre, du génocide arménien, on autorise les Turcs à sortir de la classe. C'est le cas pour Samuel Paty et Dominique Bernard. C'est qu'on autorise, lorsqu'il y a un cours de laïcité, on autorise certains élèves qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de la laïcité à sortir de classe. Hein. Chercher, donc là aussi, il y a un deux poids, deux mesures. On est en France, on est en Europe. Hein. Il n'y a aucune raison, ils devraient se plier aux lois de l'hospitalité. J'ai rien contre l'hospitalité, mais là aussi, et là c'est aux chrétiens que je m'adresse, hein, c'est que les grandes vertus chrétiennes ont été dévoyées. L'hospitalité est sacrée. Tous les peuples ont toujours pratiqué l'hospitalité, mais elle requérait deux conditions, l'hospitalité. C'est que l'invité ou l'étranger ne reste pas. Or, chez nous, il reste. Hein. Ce qui fait que nous ne pouvons plus, sauf à se revendiquer d'une charité négative, hein, nous ne pouvons plus répondre. Et l'autre condition, c'est respecter les lois culturelles de l'hôte, hein, ce qui n'est pas le cas. Je veux dire, c'est... On pourrait ajouter
que l'immense majorité des témoignages d'hospitalité tout le temps retranscrits sur toutes les sphères mondiales sont en fait les cas d'individus isolés. C'est l'individu.
C'est un individu, bien sûr, pas un peuple. En plus, mille fois raison. Il y a une troisième condition, c'est que on n'accueille pas. Il n'y a pas de loi d'hospitalité pour un peuple. Hein. J'avais lu le bouquin de Marion Maréchal, hein, très bon, où elle rappelle le principe d'une priorité de la charité dans la théologie chrétienne, hein, d'un ordre de la charité. Il y a un ordre de la charité. Tout ça, on l'a dévoyé. Ce qui fait qu'on est piégé moralement. Nous, on est piégé moralement parce qu'on est décrit comme des personnages sans altruisme, hein, sans générosité, d'un égoïsme fondamental. Non, c'est qu'on a dévoyé la vertu de charité. Ouais.
Nous allons reprendre cette conversation avec François Bousquet au sujet de son superbe ouvrage « Sale blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir » aux éditions de la Nouvelle Librairie après une pause musicale qui nous est proposée par Claudia.
Vous appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir mon ami François Bousquet qui publie « Sale blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir » aux éditions de la Nouvelle Librairie. On a déjà posé un peu le constat, les premières leçons qu'on peut tirer de cet ouvrage. J'aimerais revenir sur quelques conséquences sociologiques que vous analysez avec beaucoup de finesse et qui ne m'étaient pas apparues spontanément ou qui avaient causé chez moi des préjugés ou des incompréhensions. Vous avez par exemple une analyse assez fine, j'ai trouvé, de la progression des gamers, donc des pratiquants de jeux vidéo. Ouais. En somme, vous expliquez, vous compléterez ou corrigerez, François Bousquet, qu'à force de voir leurs possibilités d'accès à l'extérieur, ouais, terrain de sport, club associatif, que sais-je, réduit, finalement, pour beaucoup d'entre eux, ils n'avaient là que leur seul espace de loisir et d'évasion.
Oui, non, j'aurais jamais imaginé... J'en fais état dans le bouquin. Moi, j'ai jamais joué à des jeux vidéo. Enfin, quelques copains avaient ça quand j'avais 12-13 ans, mais enfin, c'était à la marge. Nous, moi, j'étais parisien, dans le 11e arrondissement. J'ai joué dans la rue tout l'élémentaire, j'ai joué dans la rue, au football. Hein. De temps en temps, on manquait de se faire faucher par une voiture qui allait vite, mais les parents nous laissaient sans problème. Et vous avez raison, l'espace social s'est rétracté. La rue est dominée par des comportements, en tout cas chez les garçons, de domination. Cette fameuse, on revient toujours sur la guerre des yeux, le mot est de Gilby. les terrains de foot, hein, ça fait depuis 50 ans. Pierre Ménès, je regrette que Pierre Ménès en fait à chaque fois l'aveu. Il l'a fait trois fois, je crois. Quatre fois, si on ajoute l'affaire Gourcuff, hein, qui nous ramène à Krishna en 2010. Donc c'est assez ancien. Quatre fois, il a évoqué un racisme anti-blanc dans les stades municipaux pour son fils, hein, et pour en D1 pour Gourcuff à la Coupe du Monde. Et quatre fois, il a reculé. Or, c'est un phénomène qui existe. Vous évoquiez un de mes témoins, Ostricourt. Ostricourt, c'est une ville désindustrialisée, sinistrée. Hein. C'était la mine, hein, dans le Nord, dans le département du Nord. Hein. Mon témoin me dit qu'il voulait jouer au Rapide d'Ostricourt. Enfin, il ne pouvait pas, parce que ses parents n'avaient pas d'argent. On ne peut pas acheter des crampons. Mais ça concerne tous les enfants. Moi, mes parents n'ont jamais voulu m'acheter des crampons. Enfin, ça ne m'a pas traumatisé, je veux dire. Mais les parents étaient beaucoup moins. Nous gâtaient beaucoup moins. Mais qu'importe, hein, années 80, il ne peut pas jouer Rapide d'Ostricourt. Donc, de fait, oui. De fait, la rue, les parents ont peur. La rue est dominée par l'autre. Hein. Le terrain est dominé par l'autre. Le rapport de force est perdu. Donc, oui, il y a des phénomènes de repli, d'autisme. Hein. Souvent, chez des HPI, comme on dit désormais, souvent des hauts potentiels, il y a énormément de geeks. Hein. Donc des fous d'informatique, hein, qui est réservé aux petits blancs. Également des phénomènes, alors je n'en parle pas parce que j'en parle dans le premier volet de mon enquête, hein, le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Hein. Également beaucoup de phénomènes gothiques, hein, chez les jeunes, garçons et filles. Hein. Mais le gaming, oui, c'est le refuge du petit blanc, surdoué, mais un peu autiste, hein, avec un comportement légèrement autistique. Hein. Parce qu'il ne trouve plus à s'exprimer, sa vitalité et son énergie se retournent contre lui-même. Hein. Donc c'est des phénomènes qui me viennent à l'esprit parce que j'ai quantité de témoins qui font du gaming, même des filles. J'aurais jamais imaginé que des filles puissent se prenaient pour Lara Croft. Hein. J'ai des témoins comme ça. Voilà.
Et vous le percevez chez des gens qui ont eu après une conscience militante très, très aiguë et d'ailleurs à qui vous rendez hommage.
Oui, oui, oui. Alors moi, là, c'est très encourageant et en même temps décourageant. Il faut faire une analyse à froid. Sans tricher du réel, hein. C'est très encourageant parce que tous les gens qui sont venus à moi ce sont des gens qui sont qui peu à peu ont acquis une conscience identitaire, hein, qu'ils n'avaient pas au départ parce que c'était un espace vide, hein. Ils n'ont pas de conscience identitaire. D'où tu viens, c'est personne dans Ulysse, hein. C'est Ulysse quand il trompe le cyclope, hein, Polyphème. Ils n'ont pas de conscience identitaire, donc peu à peu ils se construisent une conscience identitaire dont eux se sauvent, hein. Mais les autres, la plupart on les perd parce qu'il y a une telle pression, en particulier islamique. Parce que la rue est dominée par les codes de prestige et les hiérarchies de prestige, hein, en tout cas dans ces quartiers-là, donc qui sont vampirisés et colonisés par l'islam. Hein.
Et ça revient beaucoup dans les témoignages que vous avez.
Franchement, moi, la prochaine enquête, moi, ce sera ça. Parce que ça me hante, je le travaille depuis 10 ans, cette question des conversions à l'islam. Je dis souvent, j'ai rien contre les conversions. Je conçois la conversion quand c'est une démarche individuelle.
Et libre.
Et là, c'est une démarche collective, hein, sous la pression de l'environnement immédiat, pour des stratégies de survie, et puis également mimétique, hein, pour faire appel à René Girard, c'est que quand vous devenez musulman, vous épousez les codes de la force islamique, la virilité islamique, quand c'est un garçon, la domination du garçon sur les filles. Hein. Donc là, vous avez raison d'insister sur des gens que je fais témoigner. Enfin, qui témoignent, eux se sont réveillés, ils ont fait un coup d'état intérieur. Voilà. À un moment donné, je pense à une fille, hein, qui s'appelle Chloé, elle est dans le premier volet, elle est vraiment là, elle a honte d'être blanche. Hein. Elle a honte d'être blanche. Beaucoup de filles ont ça aussi. Tous mes témoins ont honte d'être français, c'est un garçon des filles, hein. Mais chez les filles, il y a une honte d'être blanche. Hein. On pense qu'on est sale, hein, qu'on n'est pas belle, hein, qu'on n'est pas normale. Hein, Et elle me dit, cette fille, Chloé, donc c'est à Vigneux-sur-Seine, hein, c'est à 30 km de Paris, Vigneux-sur-Seine. Hein, c'est collège complètement grand remplacé. Ils sont 5 blancs, 5 à 10 blancs sur 500 élèves, hein, vous voyez, un petit peu. Qu'elle était d'abord insultée en 6e, insultée et raquettée en 5e, et insultée et raquettée, puis molestée, battue, tir de cheveux, bousculade, coup dans la nuque, claque dans la nuque en 4e. Hein. Et en 3e, elle se révolte. Hein. En 3e, elle se révolte, elle se politise. C'est à l'époque où il y a Génération Identitaire, donc elle découvre Génération Identitaire sur Internet. Hein. Elle découvre le rock identitaire. Ce sont les codes de l'adolescence. Ce n'est pas mes codes. Hein. Moi, je préférais qu'ils écoutent Wagner, hein, ou j'en sais rien, ou Mozart, peu importe. Hein. Et qu'ils lisent Victor Hugo, ce n'est pas le cas. Donc, ils se reconstruisent peu à peu, mais pas dans les médias. Et grâce à ça, ils se sauvent. Hein. Mais les autres, moi, c'est le tonnerre lointain ou le halo lointain de mon enquête, hein, c'est les conversions à l'islam. Je tombe régulièrement sur des familles où il y a 1, 2, 3, j'ai même une famille où il y a 5 convertis.
D'ailleurs, des familles où il y a des rebelles qui font ce coup d'État dont ouais. on parlait, ouais. De réappropriation
de soi, de son identité, soi,
de son identité, finalement de son l'histoire. Autonomie, ouais, on ouais. pourrait presque dire.
Sa liberté.
Ouais. Et quand dans la fratrie, d'autres sont convertis à l'islam.
D'autres sont convertis, donc ça entraîne des phénomènes d'incompréhension. Moi, un de mes témoins me dit, je reviens sur les hiérarchies de prestige. Hein. J'ai un témoin qui, lui, s'est sauvé par l'écrit. Parce qu'il il avait un petit carnet, adolescent, il prenait des notes. Il a noirci des quantités de carnet, ça lui a permis de se construire. Il est passé après à l'INALCO, aux langues étrangères, il apprend le chinois, il est en Chine aujourd'hui. Mais à Champigny-sur-Marne, qui est vraiment le siège de la drogue, du rap, enfin de la quantité de rappeurs qui sont nés là-bas. Et il me dit la chose suivante, moi j'ai un frère aîné qui était drogué, camé, il est perdu. Mais même le camé perdu, qui n'a plus dedans, disait à une époque qu'il était musulman. Ça lui conférait un prestige dans la rue, mais c'est surtout son frère aîné converti, mais totalement converti et salafisé à telle enseigne qu'il parle de la France comme d'une terre étrangère. Il ne veut pas que ses enfants soient éduqués en France, alors que c'est un enfant blanc, fils d'ouvrier et d'ouvrière. Il s'est installé au Caire, où il y a une diaspora salafiste de Français, convertis ou pas. Et mon témoin me dit que quand il était ado et qu'il voyait son grand frère converti à l'islam avec sa barbe, son camis, sa djellaba, parce qu'il épouse tout, il était fasciné. Parce que c'était la puissance. Parce que quand il traversait les rues de Champigny, il était salué avec respect et déférence. Hein. Donc lui, jusqu'à l'âge de 16-17 ans, a pensé se convertir. Hein. Son premier verre de vin, il a son surmoi, c'est son frère converti. Il me dit que mon premier verre de vin, qui était un bonheur, ça a 30 ans. Alors que le type est un identitaire zémourien. Aujourd'hui, installé en Chine pour ses études, peut-être plus. Hein. J'ai pas mal de témoins qui choisissent l'exil. Hein.
Oui, vous parlez de cette fuite.
J'ai même un témoin en Corée qui a déposé une demande d'un statut de réfugié. Je peux pas le dire, je l'ai pas dit dans le livre parce que on attendait sa réponse. Hein. Il a la réponse, a été rejeté, mais il va le représenter. Pourquoi réfugié ? Parce que il a passé une enfance sous la pression islamique à Toulouse. Hein. Donc c'est des mécanismes qu'on. C'est le monde à l'envers, quoi.
Et ce qui est impressionnant, hein, c'est les chocs biographiques qui se produisent, où on voit que le passage ou la zone est extrêmement ténue.
Ouais, ouais,
un déménagement, une liste d'attente dans le privé, des micro-événements de vie. Alors évidemment, voilà. Des cas de divorce, de grandes violences, etc.
Mais non, comme néanmoins, il suffit de très peu de choses.
Très peu de choses, c'est très frappant.
Chloé, que j'évoquais, c'est la carte scolaire. Le primaire se passe bien, ses parents sont de gauche. Alors je découvre aussi les ruptures familiales. Beaucoup de parents de gauche sont détestés par leurs enfants. Parce que les parents ont...
Alors c'est quoi ? C'est le manque d'empathie, c'est les œillères.
Les œillères. C'était des parents qui étaient pour certains d'entre eux conséquents et cohérents, donc au moins on peut leur concéder ça. Je suis de gauche, je mets mon enfant dans le public, quelle que soit l'école publique de mon quartier ou de mon secteur. Simplement, leurs enfants leur en veulent beaucoup, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été abandonnés en 6e, 5e, 4e, c'est surtout au collège. Hein. À partir de la 3e, ils commencent à se révolter, ou de s'assimiler à l'envers, ça c'est un autre phénomène. Et vous avez raison, il suffit d'un léger coup de dé, d'un tout petit coup de dé, la carte scolaire, il suffit que vous êtes le dernier pavillon de la carte qui vous assigne à tel collège de secteur, qui est très largement remplacé. Il y a d'autres cas de figure que je réfléchisse, hein. Mais oui, où ça tient à une très légère bascule sur un aiguillage, hein, pour que ça bascule dans le bon sens ou dans le mauvais sens.
Ce basculement, cette inflexion, elle peut vous entraîner dans une spirale de violence incandescente au moment où la personnalité se crée, forge. Cet effet de la violence sur la construction de soi, c'est aussi quelque chose qui traverse l'ouvrage, qui d'ailleurs pourrait être délié du sujet principal du racisme anti-blanc, mais ça, c'est rémanent.
C'est chez les garçons. Chez les garçons, ça explique. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de témoins garçons. Alors, forcément, pour que nos auditeurs situent, on parle des Ulysse, hein, on parle de la Courneuve. On parle d'Evry, hein, donc de cité explosive, hein, où la police ne met plus les pieds, où les blancs ne mettent plus les pieds. Il y a quelques blancs résiduels, hein, moi c'était il y a 20 à 30 ans, dans des univers totalement remplacés, où le simple fait d'avoir une peau blanche, moi je dis, c'est comme si ça avait une affiche 4x3 dans le dos en termes de cible. Hein. Donc, que font les garçons dans cet univers-là, si, sauf s'ils choisissent un destin là, Franck Ribéry. Hein, la plupart, c'est Franck Ribéry, j'insiste pour m'attrister, pour alarmer les gens. La plupart choisissent le destin de Franck Ribéry. S'assimiler à l'envers pour aller jusqu'à l'islamisation. Mais si vous voulez résister quand t'es un garçon, il y a que la violence. Voilà. Là, c'est un rite de passage, c'est un rite d'initiation. Ça s'appelle le hooliganisme, dans ses formes les plus modérées, étonnamment, et dans ses formes les plus extrêmes, c'est le phénomène skinhead. Hein. Moi, jamais je n'aurais imaginé, parce que je croisais des skinheads hein, quand j'avais 14, 15, 16 ans, à la fête des bleus-blancs-rouges. Il en restait encore un ou deux que le Front National de Jean-Marie Le Pen, n'en hein, déplaise au nouveau RN, commençait déjà à écarter. On ne veut pas qu'on les voit, parce que si jamais il y avait une caméra de France Télévisions, on voyait que... Donc moi, je n'avais pas d'a priori vraiment sympathique à leur endroit. Hein, pour moi, c'est un point américain qui finit sur ma gueule. Très bien, mais de loin. Quoi. Et ben non, pas du tout. Je me rends compte que les skinheads, dans les années 80, 90, eh ben c'est la seule issue. Quand on a un garçon blanc avec une identité, un caractère, avec du caractère, disons plutôt, qu'une identité, parce que l'identité elle est en cours de construction, comme vous le rappeliez, avec du caractère, de la force, hein, une énergie vitale, hein, ben vous ne pouvez pas ne pas passer par la case de skinhead. Hein. C'est la seule façon pour un blanc de se sauver de cette aspiration à l'envers, hein, qui est l'univers environnant. Vous finissez, que je le redis, comme Franck Ribéry, qui pour moi est un symbole. Donc oui, il y a les rites d'initiation de la violence pour les garçons, et chez les filles, c'est paradoxal. On retrouve le même phénomène chez les filles, donc elles adoptent, c'est ce que me disent beaucoup de témoins, qui surjouent une sexualité parce qu'elles ont été violées, elles ont été tournées, donc elles surjouent une sexualité. Et d'autres qui, à l'inverse, comme Chloé que j'évoquais, bah, qui se construit une conscience identitaire, qui rentre, alors c'est assez jeune Chloé, elle doit avoir 27-28 ans, c'était avant la dissolution de génération identitaire, qui rentre à génération identitaire, hein, qui fait de la politique, hein, de la métapolitique, hein, qui font des opérations happening comme Némésis, hein, et bien c'est ça qui va la sauver. Quoi.
Et ces personnes que vous voyez sauvées, pour une partie de nos auditeurs, ne les croisent pas, du fait de différenciation sociale, d'éloignement géographique, etc. Est-ce que vous les voyez comme complètement sauvées, ayant une vie peut-être pas comme Monsieur Tout le Monde, mais approchante, ou est-ce qu'on sent dans le regard, dans l'interaction, qu'il y a une blessure, une fêlure, une cicatrice ?
Il y a une cicatrice alors chez les femmes. Hein. Le témoin, alors c'est un témoin qui accepte d'apparaître sous son nom. Sonia, elle est d'origine kabyle et polonaise. Hein. Mais elle s'est présentée au cantonal, hein, sous l'étiquette RN. Hein. Donc elle accepte de s'afficher. Mais oui, elle a été violée à l'âge de 9 ans de manière répétitive. Ça entraîne le viol sur les jeunes filles, entraîne des conséquences très très lourdes. Donc elle vit à Paris. Elle vit à Paris. J'en parle pas sans émotion. Depuis 50 ans, quand je parle avec elle, on sent une voix usée par les médicaments. On sent une voix vraiment usée, quoi. Pour autant, un esprit assez vif. Hein. Donc oui, je pense aussi à un garçon. Je consacre un chapitre que je l'aime beaucoup. C'est un quasi-compatriote, hein, parce qu'il est né dans Lyon, où moi je suis installé, je suis devenu un néo-bourguignon. C'est un punk zémourien. Donc oui, c'est un enfant. Son père était ouvrier agricole, les parents sont enfants de la DAS. Hein. Donc c'est des profils sociaux hors normes, hein. Enfin disons hors normes, courants, mais donc qui ne sont pas représentés dans nos séries télévisées, qui n'apparaissent pas au journal télévisé.
Mais vous expliquez que c'est l'homme blanc dans cette situation-là, c'est le surnuméraire de l'époque, finalement.
C'est l'homme en trop, voilà, c'est l'homme en trop. Donc faisons en sorte que ce soit pas l'homme en trop, puisque c'est précisément c'est la cheville qui tient le corps de la nation, puisque c'est le peuple profond, c'est le peuple de la France périphérique, c'est le peuple paysan, pour dans le cadre de mon punk zémourien. Qui aime, me dit-il, le punk qui sent la pisse, hein, c'est ce qu'il dit, c'est sa formule, j'aime beaucoup la formule. Hein. Et puis Chopin, personne ne m'a parlé aussi magnifiquement de Baudelaire que lui, alors que c'est un fils de cas sociaux. Son père était ouvrier agricole dans Lyon, je vous laisse imaginer, il y a 30 ans, ouvrier agricole, c'était la pire des professions, c'était le sous du sous prolétariat, mère, femme de ménage, comme plein de gens dans la France périphérique. La France périphérique, la femme de ménage sont blanches, j'y peux rien, mon garçon, le cantonnier, il est blanc, il n'est pas noir, il est blanc. Donc on ne les a pas grand remplacés. Et ben c'est tous ces gens-là à qui je tends un micro, mais qui néanmoins ont été élevés dans des univers sociaux et des quartiers populaires, où ils ont été soumis très très tôt à la pression de l'immigration extra-européenne et de l'islam, hein, qui est la double peine pour eux.
Cette double peine, on continue à l'étudier avec François Bousquet, à l'occasion de la publication de Salle Blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Je sors de l'ouvrage une minute, François Bousquet, si vous le voulez bien. Vous avez dit que ça a été caché par les médias centraux, ce thématique du racisme anti-blanc. En tout cas, vous avez fait florès avec votre premier ouvrage, ouais, puisque là, les médias centraux vous font un peu l'honneur d'attaques gratuites. J'en ai relevé deux, assez intéressantes. Aude Lancelin n'a visiblement pas apprécié votre description de la porte de Clignancourt, ou peut-être plus exactement du regard des gens de gauche sur la porte de Clignancourt. Et quant au quotidien de Yann Barthès, alors il considère que vous faites de l'auto-édition la nouvelle librairie. Ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que vous considérez que c'est une première étape positive? Finalement, on n'est pas dans le silence, on est dans l'attaque à hominem, violente, virulente, insultante pour votre travail.
Tant mieux.
Vous considérez que c'est un petit problème?
Tant mieux, bad buzz, good buzz. Nous, on rentre, vous, moi. Nous, nos univers sociaux, politiques, culturels, on rentre toujours par effraction dans l'actualité, enfin dans l'actualité des réseaux, des médias centraux, pas de Coucou et de Bolloré, hein, je veux dire, mais et puis d'autres, hein, d'éléments. Hein. Et donc on rentre que par effraction, donc par le scandale, j'y peux rien. Genre c'est Aude Lancelin, c'était dans ces studios qu'on a commencé à en parler. Après, ça a pris un peu d'ampleur, avec Richard de Seize. Oui, moi je la remercie dans le bouquin Aude Lancelin, parce que c'est une des rares qui a joué le jeu du débat. Donc,
bien sûr.
Remercie. Simplement, je pointe le paradoxe entre le. Alors, si elle me dit qu'elle paye, enfin, elle dit qu'elle paye un loyer, j'en suis pas sûr, c'est pas ce que dit Mathieu Pigaz. Hein. Mais il faut savoir qu'il y a un Bolloré de gauche, hein, qui est aussi puissant que Bolloré. Il a peut-être moins d'argent, mais il est aussi puissant. Qui a un empire médiatique, hein, où il y a. Radio Nova, les Inrock, et puis une pépinière de trucs, hein, je veux dire, dont QG, le média de Aude Lancelin, abrité dans un immeuble du 18e arrondissement à 200 mètres du périphérique, où il n'y a que des blancs. Donc je dis, moi, que c'est une réunion non-mixité, mais blanche. Hein, donc ça la heurte. Or, pour arriver jusque-là, moi, je suis passé à la porte de Clignancourt, mais on pourrait passer par la porte de Saint-Ouen, ce serait la même chose. Hein. Quand vous débarquez à porte de Clignancourt, vous sortez du métro, vous êtes agressé par des vendeurs afghans de Marlboro, on les appelle les Marlboro Men, hein, les policiers appellent comme ça maintenant. C'est des puces sauvages, je vous jure, c'est dégueulasse, c'est en dessous du tiers-monde, c'est en dessous de la favela, c'est un dépotoir, peu importe comment ça, c'est un dépotoir, j'ai pas rien, quoi. Il n'y a pas un blanc, je vois ce que je vois, simplement, on est quand même dans une énorme entreprise de déréalisation du réel, on ne peut pas le faire valoir, ça, il n'y a pas de blanc, c'est immédiatement perçu comme raciste. Hein. Et moi, simplement, je ne fais que pointer l'hypocrisie et le hiatus, hein, hémiplégique, hein, ou la dissonance cognitive, hein, du cerveau d'un gauchiste. Il fait semblant de vivre dans des quartiers où il y a une très grande mixité ethnique, hein, mais il le vit en touriste culinaire, gastronomique, musical, parce qu'il écoute les musiques du monde. Hein. Mais dans son immeuble, non, il n'y a plus rien, il n'y a que des blancs, parce qu'il n'y a que des blancs qui ont de l'argent, parce qu'il ne voudrait pas. Et puis dans son école, il n'y a que des blancs, parce qu'il ne veut pas que ses enfants soient avec d'autres choses que des blancs. Il le triche, mais on n'a pas le droit de le dire, voilà. Tartuffe, quoi. Je repense toujours à Tartuffe et à Lossowski. Je rêverais d'une sorte de fusion de du Tartuffe et des possédés.
Travaillez-y,
Lossowski. Non, il faut deux cerveaux. Non, je rêve, je suis un critique littéraire, je veux dire. Comme critique littéraire, je rêve de cette grille d'interprétation. C'est des faux dévots. Ils sont dans une surenche. Tartuffe, c'est quoi Tartuffe, hein? C'est Tartuffe, il attaque les dévots ou les faux dévots. Moi, je pense qu'il attaque aussi les dévots, mais peu importe dans les polémiques de son temps, c'est des faux dévots. C'est la querelle des faux dévots. Et c'est quoi les faux dévots? C'est la piété ostentatoire. Voilà. Y a des paraboles dans les évangiles, les publicains, les pharisiens. Les évangiles dénoncent en permanence les pharisiens. Le pharisien, c'est celui qui en fait trop. Voilà. C'est qui est too much, qui est tapageur. Hein. La gauche est tapageuse. Hein. Parce qu'elle a un maximalisme des discours. Hein. C'est l'immigration, c'est formidable, la mixité. Et il y a un laxisme, un minimalisme des pratiques. Et c'est dans ce grand écart, il faut les piéger dans ce grand écart. Simplement, ils brandissent tout de suite l'accusation de racisme. Alors que non, le truc de Pigaz, franchement, alors je dis dans le bouquin, je le redis, ça a été repris par Quotidien, c'est que j'ai l'impression que je rentre dans une enclave serbe au Kosovo protégée par les casques bleus. Quoi. C'est le sentiment que j'ai, parce que tout d'un coup, il n'y a que des blancs qui font semblant de jouer la comédie de la mixité, mais sous vide. Hein. Voilà.
Parce que certains pourraient vous répondre, François Bousquet, que la litanie des témoignages que vous amenez et la masse qu'elle représente dévoile forcément quelque chose. C'est-à-dire ceux qui voudront invalider, dire qu'il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc puisqu'il ne serait pas systémique ou autre fadaise, ne pourront pas aller contre cet aspect énorme, parce qu'on imagine que si vous avez plus de 90 personnes, si comprends, qui témoignent, c'est qu'il y a un phénomène, ce phénomène mérite d'être étudié, et apprenons des drames qui se sont produits récemment, plus on cache ce phénomène, moins on peut en penser socialement, psychologiquement, personnellement, les blessures. C'est une première étape. On pourrait aussi dire que le multiculturalisme ne produirait pas que cela, et que le multiculturalisme, c'est aussi de belles expériences, etc. On a l'impression que ce n'est pas votre, votre opinion.
Non, 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 j'ai rien dans l'absolu. Enfin, le multiculturalisme, si. La nouvelle droite, hein, qui est le courant de pensée auquel je me rattache, hein, nous sommes très, très sensibles, là, c'est Herder, c'est le courant de pensée des anti-lumières allemands, des romantiques allemands en réalité, mais aussi des anti-lumières français. Hein. C'est qu'il y a, il y a une polyphonie du monde, hein, il y a une richesse du monde, préservons-la, quoi, c'est, en évitant de la fusionner pour aboutir à des formes d'indifférenciation, ce à quoi aboutit souvent le multiculturalisme. Hein. Je l'aime pas trop par pragmatisme. Hein. J'ai bossé, longtemps travaillé... dans une édition qui était dirigée par un Serbe, hein, mais c'est, il y avait un fonds de littérature slave colossal, hein, c'est l'édition L'Âge d'Homme. La Yougoslavie, c'était 22 millions de gens avant les années 90, hein, de couples, de 22 millions de Yougoslaves, dont 2 500 000 couples mixtes. Hein. Quand je dis couple mixte, c'est, il y avait très peu de musulmans dans le couple mixte. Hein. C'était des chrétiens catholiques et des chrétiens orthodoxes. Hein. Et ben là, on parle de fractures confessionnelles, hein, comme dans les guerres de religion chez nous. Hein. Et bien tout ça, ça a volé en éclats. Voilà. Ce n'est pas un pragmatisme, c'est que les tours de Babel qu'on construise, hein, on a été prévenus, hein, c'est, y a tout un récit biblique, hein, sur Babel, hein, ben ça aboutit ça, à la guerre des uns contre les autres. Donc non, j'y crois pas, je ne vais pas en faire, pas faire semblant d'en faire l'éloge. Hein.
Vous écrivez d'ailleurs, l'erreur de l'Europe, c'est de croire que ces deux anthropologies peuvent coexister sans conflit. La simple cohabitation dans une discothèque, une piscine, une salle de sport, un hôpital... une rue devient une expérience déroutante. Les modèles féminins ne sont pas interchangeables, par exemple. Ils définissent des frontières invisibles. Frontières invisibles, est-ce que vous voulez finalement les excaver, les dévoiler?
Bah, il faut d'abord, tout le monde les connaît, ces frontières. Donc on parle de choc des civilisations. Le choc des civilisations de Samuel Huntington, hein, qui est quand même contestable sur le fond, parce que le découpage qu'il fait des aires filationnelles est problématique. Enfin, quand même, néanmoins, cette image est centrale. Hein. Pour peu qu'on ait une grille de lecture domestique. Hein. Moi, c'est la grille de lecture que j'adopte, hein, c'est que ce choc de civilisation, en réalité, il se joue au pied des cités, au pied des barres d'immeubles. Hein. Il se joue dans les gares, autour des pavillons de la France périphérique. Hein. Et c'est un choc des mœurs, en réalité. C'est un choc culinaire, bien sûr. Moi, je suis dans la France périphérique. Si je fais un barbecue, il y aura du porc. C'est un problème. Hein. Si mon voisin m'invite, il y aura une tireuse de bière. J'y peux rien. Et moi, je vais avec une bouteille de pinard. Hein. Ma conception de comment dirais-je, hein, pas de la drague. Hein. Le terme est impropre, hein, et maladroit. Mais de la mixité sexuelle. Hein. L'Europe est le continent de la mixité sexuelle. C'est un continent. C'est le christianisme, les Grecs, les Romains. Moi, je renvoie toujours, quand je fais des conférences, les gens avec les tableaux de Bruegel, hein, père et fils.
Oui, vous montrez que vous dites qu'il y a des femmes dans les...
Il y a des femmes partout. Elles sont parfumisées, elles sont à l'égal de l'homme. Elles dansent avec l'homme, elles font des farandoles et des rondes avec les hommes. Hein. L'amour courtois, c'est dans les cours de la Renaissance. Hein. Donc le statut de la femme est radicalement différent dans ces deux univers, dans ces deux imaginaires qui sont forcément antagonistes. Hein. Quand un Afghan débarque, un primo-arrivant afghan débarque, hein, et qu'il voit ces femmes d'abord sur un pied d'égalité avec les hommes. Hein. Alors comme le dit un auteur, un journaliste, hein, y a une surdétermination du narcissisme masculin dans la société musulmane. Et pour cause, le terme a l'air un peu pompeux, mais je vais l'expliquer. Et pour cause, hein, c'est que tout a été fait à la main de l'homme. Hein. La femme est la propriété de l'homme. Hein. La femme est le capital, hein, sexuel, culturel, symbolique de l'homme. Hein. Elle doit répondre à deux critères, la femme. Hein. Elle doit être invisible, hein, et vierge, hein, sous la pression de l'homme. Et dès qu'il débarque dans nos sociétés, c'est un choc, c'est un antagonisme des valeurs. En Afghanistan, ils ont un moyen de contrôle sexuel des hommes, c'est la pédophilie. C'est renseigné, hein, ça s'appelle le Bacha Bazi. c'est où il y a une pratique, apparemment un Afghan sur deux, 6 livres, qui est une pratique de prédation sexuelle hein, des adultes sur les enfants, mais c'est que les mâles. Hein. Par contre, ils débarquent en Occident, c'est un marché sexuel à ciel ouvert. Hein.
Vous pourrez découvrir tout cela et approfondir les analyses de François Bousquet dans son livre « Choc », qui multiplie les témoignages de première main, « Sale blanc, le racisme qu'on ne veut pas voir » aux éditions de la Nouvelle Librairie. Bravo François Bousquet de continuer cette œuvre de collation, témoignages, et j'espère que bientôt ce scandale sera désormais non plus seulement un travail de recherche, mais aussi un travail de réaction de politique publique.
Merci Charles.
D'entendre le Libre Journal des débats dirigé par Charles Demeyer. Émission préenregistrée le 23 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 6 mai de 21h30 à 23h et réalisée par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.